présenter l'axe écosystème et eau, impact, adaptation et mitigation. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de projets qui sont dans cette synthèse. Et donc, de première chose, c'est une synthèse d'une seule, une partie seulement de ces projets. Et deuxièmement, j'espère qu'il y a quelques personnes dans la salle qui peuvent répondre à des questions sur les projets où j'ai moins de familiarité. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de ne pas faire une analyse projet par projet, mais plutôt de faire une analyse post-hoc sur ce qui est ressorti comme grand thème à travers plusieurs projets. Donc, l'un était les questions de changement d'échelle quand on fait les études d'impact de climat. Le deuxième est l'utilisation des écosystèmes ou des organismes comme indicateurs de climat. Un quatrième sur une amélioration de notre connaissance et des modèles concernant les mécanismes d'impact sur les organismes, les écosystèmes et sur l'eau. Et une dernière partie, ce n'était pas un accent très fort dans le projet, mais quelques projets qui ont abordé les questions d'adaptation et d'atténuation. Donc, pourquoi un tel focus sur ce changement d'échelle? À l'heure actuelle, il y a un effort énorme qui est fait sur le changement d'échelle avec le climat. Je prends comme exemple des exercices dits de Cordex qui sont en train d'être faits à travers le monde et qui mobilise énormément de personnes, énormément de temps, énormément de financement pour avoir une descente en échelle, c'est-à-dire d'avoir un climat à 50 km ou inférieur en termes de résolution. Et ça, c'est à la fois piloté par un intérêt de mieux comprendre le fonctionnement du climat, mais c'est surtout piloté par une demande par les gens qui travaillent sur les impacts d'avoir des projections de climat à plus fine échelle. Donc, si on est en train d'investir autant sur les descentes en échelle, quels sont les bénéfices, quelles sont les limites de ce type d'exercice? Donc, peut-être un premier petit dépôt sur des bénéfices de cette descente en échelle. Donc, d'une étude qui a été faite avec un modèle de être qui est développé dans le laboratoire d'écologie systématique et évolution. Et l'une de nos questions est, est-ce qu'on peut prédire correctement à la fois la croissance et la distribution de être avec le climat à différentes échelles spatiales? Donc, les deux qui sont peut-être mieux à regarder sont des deux qui sortent de un même modèle, Aladdin, à 40 et 12 km. Et on voit qu'avec une diminution de résolution, avec une augmentation de résolution, on a une meilleure prévision de la distribution et la croissance de être, donc en comparaison avec les observations. Donc, et c'est surtout vrai quand on est aux marges de l'aire de distribution, on a une vraie augmentation de notre capacité de prédire à la fois la croissance, non, surtout la distribution de être. Donc, un vrai intérêt de le faire. Mais dans ce même exercice qui a été fait en étroite collaboration avec les climatologues, surtout les équipes impliquées dans la plateforme MORSE, on a trouvé que pour certains des modèles de descente en échelle, c'était absolument nécessaire de faire des corrections de biais, et ce n'était pas évident, juste en regardant les critères d'évaluation de des modèles de descente en échelle, si on regardait que les facteurs climat, ce n'était pas évident que ces modèles n'étaient pas en mesure de fournir des climats nécessaires pour évaluer et faire tourner notre modèle d'impact sur les arbres. Deuxième étude qui montre cette a fait extrêmement clairement, c'était une étude de les descentes en échelle pour mieux prédire les récoltes en Afrique de l'Ouest. Donc, encore avec un modèle, donc on prend le climat et on fait une modélisation de côte dans cette région. Et ici, vous avez plusieurs modèles qui ont été utilisés pour les descentes en échelle pour le climat. Et on voit que si on ne fait pas de correction de biais de climat, donc la raison pour laquelle on fait cette descente en échelle, c'est double. Donc, premièrement, car les modèles à grande échelle ne marchent pas très bien sur cette région ici. Donc, ils captent mal les processus de climat sur l'Afrique de l'Ouest. Et deuxièmement, on voulait avoir une résolution plus fine pour faire les prévisions, projections d'impact sur des récoltes. Et on voit, sans correction de biais, on a une modélisation de récolte qui est très mauvaise par rapport aux observations. Et si on fait une correction de biais en utilisant des observations, on a quelque chose qui est très, très proche, qui montre que si on fait des descentes en échelle, ce n'est pas seulement des descentes en échelle, c'est aussi une correction de biais avec autant de méthodes de correction de biais qu'il y a des méthodes de correction de descente en échelle. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les interactions entre le climatologue et les gens qui travaillent sur les impacts? On a eu beaucoup de discussions entre nous au sein de GIS, mais on a aussi organisé une réunion qui était ouverte très largement sur l'interaction climat-écologie pour avoir une discussion autour de plusieurs sujets, mais surtout autour de cette question de descente en échelle. Et ce qui est ressorti de cette réunion est que les climatologues sont assez peu au courant de ce qui était fait, ce qui est en train d'être fait par beaucoup de gens qui travaillent sur les impacts. Et beaucoup de gens qui travaillent sur les impacts sont très peu au courant de ce qui est en train d'être fait par les climatologues. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que quand on fait une descente en échelle, chaque fois qu'on rajoute une couche de descente en échelle, on rajoute de complexité dans le modèle. Donc, si on veut faire des choses correctement en termes, par exemple, d'estimation d'incertitude, on va commencer avec notre modèle à grande échelle de climat. On va faire une descente en échelle avec un modèle régional, statistique ou dynamique. Il y a une boîte qui manque là. Souvent, on va faire une correction de biais avec plusieurs possibilités de correction de biais, avec un modèle d'impact, et avec chaque étape, surtout si on a plusieurs modèles d'impact, on va avoir une augmentation de l'incertitude quand on arrive au bout. Et ça pose beaucoup de problèmes. Et en plus, c'est une complexité pour les gens qui travaillent sur à la fois la modélisation du climat et les impacts, qui est extrêmement important. Donc, on est en train de multiplier pour correctement estimer les incertitudes dans cette chaîne d'analyse. On est en train de créer un travail qui est absolument énorme. Donc, il faut avoir une réflexion bien amont de comment on peut construire cette chaîne d'analyse avant de se lancer dedans. Donc, on a eu beaucoup de discussions sur une meilleure façon de réfléchir sur cette descente en échelle et de mieux construire les liens entre les climatologues et les écologues. Donc, juste quelques grandes conclusions de ça. Donc, effectivement, les descentes en échelle, dans certains cas, peuvent être très utiles pour améliorer des études d'impact. Mais les descentes en échelle comportent aussi des incertitudes et des complexités. Donc, les utilisateurs devraient être très au courant à la fois des bénéfices et des limites de ces méthodes de descente en échelle, que l'incertitude devrait être systématiquement étudiée, qu'il faut être au courant que les corrections de biais, même si les modèles sur les critères de climat semblent bien, souvent en correction de biais, quand on l'utilise pour les impacts, est nécessaire. Et il faut souvent utiliser des modèles d'impact pour comprendre le type de correction de biais qui est nécessaire. Et finalement, et peut-être le plus important, c'est que la descente en échelle, comme j'ai dit tout à l'heure, est souvent fait sans discussion entre ces deux communautés, et ça va être à la fin extrêmement néfaste dans un endroit où on est en train de mettre énormément d'efforts, d'argent pour faire des descentes en échelle. Donc, si on fait ça incorrectement, Les gens qui financent la recherche, on va voir quand même un certain, peut-être, exaspération avec les communautés scientifiques. Donc, c'est absolument nécessaire d'améliorer, de mieux structurer ce dialogue. Deuxième chose, c'est l'utilisation des indicateurs écologiques pour reconstruire le climat. Donc, il y en a plein dans le contexte de le GIS Climat. Il y en a eu deux avec une focalisation sur les cernes d'arbres. Mais avec, donc les cernes d'arbres sont utilisées depuis très longtemps pour reconstruire le climat, mais il y avait deux nouveautés ici. Donc l'un était de l'utiliser l'oxygène 18 et le comparer avec le carbone 13. Donc le carbone 13 est utilisé depuis très longtemps pour reconstruire le climat à partir des cernes d'arbres ou autres analyses des végétaux. L'oxygène 18, beaucoup moins. Et le deuxième projet, regardez les analyses de climat à une échelle temporelle plus fine que d'habitude avec le 13C. Donc, première chose, avec l'oxygène 18, ils ont reconstruit le climat dans le cadre de pluie Tibet. Ils ont reconstruit le climat à partir des cernes d'arbres et l'oxygène 18 dans les cernes d'arbres. Et ce qui était extrêmement important, c'est par rapport à une analyse de cernes d'arbres, donc on peut mesurer aussi la taille des cernes d'arbres sur des arbres et essayer de faire les corrélations avec le climat. Le problème avec ça, c'est qu'il faut faire ça pour un nombre d'arbres extrêmement important. L'oxygène 18 est une méthode qui est extrêmement puissante. On peut utiliser très peu d'arbres pour avoir une bonne reconstruction de climat, au moins sur ce site, sur cette étude ici. Et ce qu'ils ont trouvé, ce qui est extrêmement intéressant, et qu'il y a apparemment un changement de régime de climat qui n'était pas décrit auparavant, qu'on peut décrire en utilisant les analyses d'oxygène 18. Ils sont en train d'étendre des analyses sur, par exemple, de France avec cette méthode-là, et ils trouvent que c'est une méthode assez puissante pour étudier surtout l'impact de climat sur le cycle d'eau à travers le cerne d'arbres. Donc ça, c'est grande échelle de temps, petite échelle de temps. Donc l'autre intérêt, c'est d'utiliser les cernes d'arbres pour étudier ce qui est intra-annuel. Donc jusqu'à maintenant, les cernes d'arbres étaient plutôt utilisées pour étudier une année par une année. Si on coupe les cernes en tranches extrêmement fines et on fait les analyses des isotopes stables, on peut faire l'analyse de climat à l'intérieur d'une année. Et donc ici, c'est juste pour montrer que dans un test sur quelques arbres, ce qui construit en termes d'efficacité d'utilisation d'eau en intra-annuel, donc saison par saison, il peut corréler ça très bien avec l'utilisation d'eau simulée. Donc il semble que cette méthode reconstruit relativement bien l'impact du climat intra-annuel sur les arbres, et donc on peut aller plus loin dans l'analyse du climat et pas juste avoir un climat annuel, on peut avoir des climats beaucoup plus fines et bien loin dans le passé. Donc juste quelques grands messages ici, donc que les développements surtout de l'oxygène 18 permet des capacité de faire des proxys de climat qui sont extrêmement intéressants, qu'il faut faire vraiment attention à l'utilisation quand même de ces indicateurs parce qu'ils intègrent beaucoup de signaux de climat, mais aussi beaucoup de signaux non climatiques. Et dernièrement, dans les deux études, ils ont utilisé des mesures couplées avec des modèles de fonctionnement des arbres pour améliorer la capacité de comprendre le dynamique et de comprendre mieux les signaux à partir de ces isotopes. Et donc, ça montre l'intérêt, voire peut-être la nécessité, dans certains cas, d'utiliser des mesures et des modèles ensemble. Troisième grand thème, et ça, c'était peut-être où il y avait le plus de travail qui était fait, c'était sur la compréhension et l'amélioration de modélisation des impacts du climat sur la biodiversité, des écosystèmes et l'hydrologie. Donc, je vais prendre juste quelques exemples parce qu'il y en avait beaucoup dans les projets. En première, c'était une étude qui était faite dans le cadre de Carbo et Sol, qui était un projet de mieux comprendre les dynamiques du carbone dans les sols, surtout en réponse au changement climatique. Et donc, l'un des grandes réponses au changement climatique, c'est des modifications de teneur en eau de sol qui sont pilotées à la fois par les modifications de température, mais aussi de la précipitation. Et ici, en bas, vous avez une courbe grisée. Ça, c'est des observations à partir d'un très grand nombre d'études. Et en ligne, vous avez les grands modèles qui sont utilisés actuellement pour prédire la réponse de la respiration de sol en fonction de la teneur en eau de sol. Et on voit qu'il n'y a aucun de ces modèles qui décrit parfaitement bien la réponse de la respiration de sol en fonction de la teneur en eau de sol. Donc, ce groupe a développé un nouveau modèle, ce qui est assez important ici, qui prend en compte la biodiversité, ce qui était l'un de nos objectifs dans la GIS. Donc, pour bien prédire la réponse de respiration de sol à partir de la teneur en eau de sol, il est important de prendre en compte, par exemple, la prédation, un processus qui est extrêmement important en termes de turnover de micro-organismes de sol, ainsi que des coûts métaboliques pour des micro-organismes de sol. Et ce modèle-là prédit mieux les liens entre l'eau de sol et la respiration. Deuxième exemple, et je reviens à l'idée que la biodiversité est importante comme composante dans le modèle. Ici, dans le cadre de Medicis Bio, l'idée, c'était d'injecter donc, une partie du projet. Donc, je pense que Philippe a décrit aussi d'autres parties de ce projet. Mais une partie de ce projet était d'intégrer un modèle qui s'appelle ECO3M dans une dynamique d'océan. Donc, pourquoi injecter ce modèle? Ce modèle est un modèle de phytoplancton, mais qui décompose le groupe de phytoplancton dans plusieurs groupes fonctionnels, beaucoup plus de groupes fonctionnels que d'habitude. Donc, certains modèles, ils ont juste un groupe de phytoplancton et c'est tout. Ici, on a des phytoplanctons qui jouent des différents rôles et surtout qui jouent des rôles différents en termes de différents nutriments dans l'eau. Donc, certains qui sont spécialisés sur l'utilisation de phosphore, d'autres sur l'azote, d'autres sur d'autres éléments. Et en principe, on a une meilleure compréhension et une meilleure prédiction de cycles biogéochimiques à cause de ça. Pour l'instant, ça reste à démontrer. Ce modèle est toujours en phase de test. Donc ici, je vous montre juste une planche où on a des observations de chlorophylle dans la Méditerranée par rapport à ce qui est actuellement prédit par ce modèle. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans le développement de ce modèle, avec l'idée, une fois de plus, que l'ajout de plus de complexité en termes de biodiversité va améliorer la capacité de ce modèle de bien prédire les cycles biogéochimiques. Un autre aspect qui est lié avec le projet Humboldt, qui avait un composant de réseautage au niveau international, donc il a soutenu trois réseaux, donc l'un sur une grande base de données sur les traits des plantes, un autre sur la modélisation de changement de végétation à grande échelle et un autre sur le couplage entre l'évolution et l'écologie et l'impact du changement climatique sur l'évolution. Ce projet ici, c'est peut-être la grande réussite des projets qui étaient au départ lancés par la International Geosphere Biosphere Program et Diversitas, mais après quelques années, ont eu plus de soutien financier de ces programmes, et donc le GIS Climat a joué un rôle très important dans le soutien de deux réunions pour faire avancer ce travail-là. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que cette base de données, qui est une base de données des traits des plantes regroupée de l'ensemble des acteurs à l'échelle internationale, commence à être utilisée par un très grand nombre de chercheurs. Au départ, c'était surtout pour la modélisation de la végétation en réponse aux changements globaux. Et actuellement, et je viens d'avoir un email de mes collègues en Allemagne, on vient de passer le cap de 100 millions de lignes de données qui sont exploitées dans ces bases de données. Et on voit que la courbe en termes d'utilisation augmente en flèche. Donc, c'est clairement, c'était quelque chose qui était extrêmement utile pour la communauté de recherche d'avoir construit ça. Et parmi des choses que ça permet à faire, est de rajouter plus de fonctionnalités dans les modèles d'impact de changement climatique sur des écosystèmes terrestres. Avec l'objectif dans l'avenir proche de faire un couplage avec d'autres bases de données traits sur les animaux et sur des animaux terrestres et sur des organismes de milieu marin. Un quatrième exemple, c'est un exemple de modélisation et de mesure d'observation de les facteurs qui pilotent à la fois la quantité et la qualité d'eau. Et c'est un travail qui a été fait en Laos. L'idée, c'était de coupler à la fois des mesures, donc ça, c'est en haut de ce planche sur la gauche. L'idée, c'est d'avoir un ensemble de mesures sur différentes échelles spatiales et des modèles couplé avec ces observations pour mieux comprendre les facteurs qui pilotaient ces changements de qualité et quantité d'eau. Ce que ce graphique ici montre est que quand il y a eu de déforestation, il y a eu une augmentation très forte de matière organique qui était fournie dans les ruisseaux qui étaient dans ce bassin versant. Et globalement, ce qu'ils ont trouvé était qu'à petite échelle, pour les petits ruisseaux, pour les petits bassins versants, c'était surtout l'utilisation de terre, surtout l'utilisation de bouses de vaches et d'autres déjections animales et humaines à petite échelle, ainsi que des conditions de couverture de sol qui étaient vraiment le pilote de qualité et quantité d'eau. Mais quand on en montait au grand bassin, c'était que le climat qui était apparent. Donc, quand on communique avec les utilisateurs et on dit à l'ensemble des utilisateurs c'est l'un ou l'autre qui pilote, c'est pas vrai. Ça dépend à quelle échelle on est en train de regarder et à quelle échelle l'acteur à ses intérêts. Donc, quelques grands messages. Donc, on a démontré dans plusieurs cas que l'intégration de connaissances à échelle fine ou l'injection de la biodiversité dans les modèles peut améliorer des modèles, tout en sachant que ça a un coût, l'ajout de complexité a un certain coût. Donc, il faut faire le bilan entre le coût de complexité et l'amélioration de modèles. Deuxièmement, que cette augmentation, l'amélioration de mécanismes dans les modèles est facilitée par l'analyse et le développement des grandes bases de données à l'échelle internationale. Et que finalement, c'est aussi bien pour le fonctionnement des écosystèmes que pour les systèmes d'eau. Donc, dernière partie, et c'est peut-être la partie qui n'était pas la plus importante, mais il y avait quand même quelques exemples assez intéressants autour de l'adaptation et l'atténuation. Donc, première chose, dans le cadre de CarboSoil, récemment, on a parlé beaucoup de la possibilité de diminuer le retournement de sol, donc de no-till, pour augmenter le stockage de carbone dans le sol. Et il y a plusieurs études et surtout parmi eux cette étude ici, qui montre que ces espoirs n'étaient peut-être pas bien fondés. Que quand on fait une analyse des bases de données assez larges, les différences entre le labour et le non-labour de sol en termes de stockage de sol, ce n'est pas du tout aussi clair que ça. Et donc, de le compter dessus et de le mettre dans des modèles à l'échelle planétaire pour calculer le stockage de carbone, il faut peut-être revenir là-dessus. Une deuxième partie, c'était deux réunions, j'utilise comme exemple au moins, avec des parties prenantes, donc les scientifiques et des parties prenantes, autour de l'adaptation climatique en forêt. Donc, une première a été pilotée par le GIS et des partenaires au Québec. Et c'était très intéressant de voir comment, en France, où la plupart des forêts sont gérées, les questions d'adaptation est vue par rapport au Canada, où la grande majorité des forêts ne sont pas vraiment gérées. Donc, on coupe, après, on laisse repousser naturellement. Donc, deux visions totalement différentes de l'adaptation au changement climatique. Avec, en France, bien sûr, l'idée d'être beaucoup plus active et beaucoup plus proactive dans les mesures d'adaptation. Et un deuxième colloque qui était organisé au Sénat, aussi avec le soutien de GIS, entre un ensemble d'acteurs, des personnalités politiques, y compris des sénateurs, les gestionnaires de forêts et des scientifiques, une fois de plus, pour parler des forêts et surtout l'adaptation au changement climatique. Et dernier exemple autour de l'adaptation et de la mitigation. Donc, le projet CCTV2 avait comme objectif de faire une étude interdisciplinaire de le rôle de la verdure en ville avec trois grands thèmes. Donc, l'un était végétation et climat, de voir comment la végétation peut atténuer le climat en ville. Sur l'urbanisation et climat régional, et sur les interactions plantes-sol et leur capacité de modifier les effets de végétation sur le climat. Je prends juste un seul exemple, c'était un grand, grand projet avec beaucoup d'études et beaucoup de consultations avec des acteurs et entre les différentes disciplines parmi des scientifiques. Mais l'une des grandes conclusions est qu'il y a un grand programme de mettre en place des trames vertes en France. Et c'est lié avec un verdissement potentiellement assez important des villes. Mais pour l'instant, la plupart des acteurs ont une forte mécompréhension de le rôle de la végétation et le climat en ville. Et donc, il faut commencer à créer une façon d'améliorer l'apport de science et les interactions entre scientifiques et des décideurs autour de ces questions de la végétation en ville. Donc, juste pour terminer, en termes de suite, peut-être la grande suite de ce qui était fait dans cet axe de GIS, surtout, est lié avec la création d'un laboratoire d'excellence qui s'appelle Biodiversité, Agroécosystème, Société et Climat. Il n'est pas une naissance directe de GIS, mais il est clair qu'en termes des personnes qui sont impliquées dans l'axe 3 de GIS, on a une structuration qui est assez semblante avec des questions qui sont posées interdisciplinaires qui sont très similaires. Et en fait, il y a certains projets, même beaucoup de projets, qui trouvent leur suite dans la l'ABEX basque. Donc, je pense qu'on est plusieurs à penser que la création de l'ABEX basque aurait été difficile, voire impossible, sans avoir eu le GIS qui mettait en place cette première étape d'interaction entre les scientifiques. Le deuxième est encore plus grand, mais ça touche l'ensemble de ce qui est fait par le GIS. Ce n'est pas seulement l'axe 3, mais personne n'a mis en avant jusqu'à maintenant. C'est la mise en place de le plateau de Saclay, l'Université Paris-Saclay. Et juste un exemple de deux choses qui sont maintenant inscrites dans la structure de cette université sont un school, qui sont des programmes de master, qui s'appellent Biodiversité, Agriculture, Société, Environnement, pas très loin du nom de GIS. Et une fois de plus, on trouve une fois de plus parmi des mêmes acteurs. Et par exemple, un cursus dans un de ces masters qui s'appelle CLUES, qui est directement lié à Climate, Land Use and Ecosystem Services, qui est clairement une émanation des interactions qui est démarrée pas seulement dans le GIS, mais certainement appuyée très fortement par le GIS. Et un projet FATES qui vient d'être financé par la Fondation Paribas, qui, je pense qu'on peut dire aussi, était fortement créé à partir des interactions qui ont commencé au sein de GIS. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer à être faites à partir de ce qui a été démarré dans le GIS. Donc, il y en a à venir au moins, pour l'instant, jusqu'à la fin de Basque. Et peut-être en espérant que l'Université Paris-Saclay continue après son évaluation, qu'il y a un avenir qui est relativement clair pour au moins certains projets. Merci.